Bienvenue, vivre ensemble.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me and You, c'est le podcast du vivre ensemble. On y parle des liens que tissent les enfants avec leurs parents, leurs grands-parents, les professionnels de l'enfance et bien plus encore. Comment accompagner les enfants de manière respectueuse et joyeuse? Comment mieux comprendre leur développement et transformer les difficultés qu'on peut rencontrer en opportunités d'apprentissage? Ce podcast a été conçu à deux. Je suis Mélodie Lopez, je suis professeure des écoles, je suis la créatrice de Happy Kids et je suis maman de 5 enfants.
Et moi, je suis Nadège Petrel. Je suis infirmière puéricultrice, professeure de yoga pour enfants et maman de 2 filles. Avec ce podcast, nous avons envie d'éveiller votre curiosité, de vous faire découvrir de nouvelles approches pour vivre avec vos enfants et de vous apporter des informations qui vous seront utiles pour avancer dans votre quotidien. Parce qu'une personne informée est une personne qui a le choix. Alors, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner un coup de pouce en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en partageant sur les réseaux sociaux.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 3e saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autonomie du jeune enfant. Pourquoi est-ce que les enfants ont besoin d'autonomie, même aussi petits? Que peut-on mettre en place à la maison pour les aider à favoriser cette autonomie? Mélodie et moi-même allons vous donner plein de pistes pour les différents temps forts de la journée, mais aussi pour chaque pièce de la maison. Ce sont des petites choses simples, mais qui peuvent changer beaucoup de choses pour eux comme pour nous. Bonjour Mélodie.
Et bonjour Nadège.
Bon, trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode juste entre nous. Je me dis qu'on va avoir plein de choses à partager aux parents qui nous écoutent. Si je te dis, Mélodie, si je te dis autonomie, ça te fait penser à quoi?
Alors moi, quand j'entends autonomie, je pense à Maria Montessori qui m'a tellement accompagnée pour développer l'autonomie de mes enfants avec cette phrase « aide-moi à faire seule ». Parce que les enfants, ils ont déjà énormément de capacités, de ressources. Et parfois, quand on est au tout début de notre parentalité, on ne soupçonne pas toutes ces compétences qu'ils ont. Et peut-être qu'on a tendance à pas forcément les laisser, on les laisse pas forcément faire seuls tout de suite. On n'ose pas, on a peur aussi, on a peut-être des appréhensions. Et je l'ai vu, moi, au fur et à mesure de ma parentalité, j'étais quand même pas tout à fait pareil avec mon premier qu'avec mon deuxième, que j'ai laissé plus libre. Et ça commence notamment, je trouve, tout bébé déjà. Par exemple, dans leur motricité, tu vois, le fait de vraiment les laisser pieds nus sur un tapis et puis découvrir leur corps, découvrir qu'ils peuvent attraper ce qu'il y a autour d'eux, se déplacer, ramper sur le carrelage, même s'il n'y a plus le tapis. En fait, les enfants, ils peuvent ramper comme ça. Des fois, on a peur, tu sais, qu'ils se fassent mal, qu'ils se cognent la tête. Mais quand on les laisse libres de leur mouvement, c'est vraiment... intéressant, Nao approuve, lui qui pour le coup a été vraiment en motricité libre. Et pareil, je pense au temps de repas. Tu vois, pour mon premier, je lui faisais ses petites purées, je lui donnais la purée à la cuillère, alors qu'à partir de mon deuxième, en fait, ils n'ont pas tenu une cuillère avant un bon petit moment. Ils mangeaient avec les doigts, ils mangeaient tout seuls, ils mangeaient des morceaux. Donc c'est rigolo, en fait, les enfants, ils ont vraiment plein de capacités. Et donc, on va voir comment on peut organiser l'espace et puis l'environnement pour leur permettre de les développer.
Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais justement de Maria Montessori. Et je pense que c'est la première pédagogie alternative qui m'a attirée, ou en tout cas vers laquelle je suis allée quand je suis devenue maman pour la première fois. Et c'est pareil, j'avais ce livre justement et qui se nomme « Aide-moi à faire seule » et qui m'a beaucoup, beaucoup guidée aussi. Et on voit qu'effectivement, les enfants, comme tu le disais très bien, depuis tout, tout petit, c'est-à-dire bébé, ils peuvent être autonomes sur plein de plans. Alors, bien sûr qu'ils ont besoin de nous pour les accompagner, pour faire les soins qu'on dit de nursing, etc. Mais au final, ils ont ces capacités à petit à petit tout mettre en œuvre pour arriver à se retourner, pour arriver au final à faire du quatre pattes et puis à marcher, et donc toujours, toujours, toujours à aller vers cette autonomie, et même quand après ils grandissent et qu'ils ont envie de tout faire tout seul et dès qu'on veut les aider, non, c'est moi. C'est trop beau de les voir aussi faire comme ça, même si des fois, quand c'est notre propre enfant qui nous le dit pour la 20e fois de la journée, c'est pas toujours facile de... Mais justement, comme tu disais, de les laisser faire. Et quand je t'entendais parler, j'avais la vision de... Tu sais, quand ils essayent d'enfiler la chaussette, et t'as juste envie de leur dire, attends, je le fais pour toi. Mais au final, si on leur laisse le temps, ils finissent par y arriver. C'est juste que ça demande un petit peu de temps. Et du coup, justement, je te propose qu'on commence par tout ce qui concerne... l'habillage, donc, je parlais de l'exemple des chaussettes ou je pense que c'est intéressant, même si je sais qu'on n'a pas forcément tout le temps de leur laisser le temps. Je pense par exemple le matin avant d'aller au travail ou peut-être de les emmener chez la nounou ou à la crèche où là on est un peu dans le speed, donc peut-être qu'effectivement on va faire à leur place, mais je me dis il y a plein d'autres moments dans la journée où on peut les laisser faire. Surtout qu'il y a des périodes où ils font que ça, hein, enlever les chaussettes, les remettre, enlever les chaussettes, les remettre. Donc je me dis, ça peut être l'occasion de les laisser s'entraîner, parce qu'au final, ils vont se rendre compte que ils sont capables, et je trouve que cette autonomie, justement, elle leur permet aussi de gagner beaucoup en confiance en eux. Et je pense aussi à la technique, là, tu sais, du manteau, pour les laisser enfiler le manteau, où on met le manteau papillon. Par terre. Ah, tu appelles ça le papillon ? Je ne sais
pas,
ça porte
un nom. La technique du papillon. Oui, tu fais des ailes.
Ah, alors moi, je ne sais pas, je n'ai jamais donné de nom. Mais tu le vois et tu poses le manteau par terre. Tes enfants, ils mettent les deux mains là, dans les trous au niveau des manches, au niveau des épaules. Puis hop, ils relèvent les bras par-dessus la tête et le manteau, il se met...
C'est là où tu te transformes en papillon.
Ah.
Quand tu déploies tes ailes, hop là, pour que la veste se mette dans ton dos.
Ouais, c'est trop fort. Mais tu vois, je savais pas que ça portait un nom. J'adore. Est-ce que toi, tu as des petits tips, justement, par rapport à l'habillage, des choses que tu as mis en place à la maison avec tes enfants ?
Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit dressing vraiment à hauteur d'enfant. Donc, ils peuvent accéder à leurs habits. Donc, on a une petite boîte dans laquelle on a rangé tout ce qui est plutôt pantalon. Et puis après, sur des cintres, ça va être les t-shirts. Et donc là, ils peuvent choisir leurs vêtements tout seuls. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va gagner du temps plus tard, mais que sur le coup, on ne gagne pas du temps. Parce que qui dit à hauteur d'enfant dit que de temps en temps, c'est quand même hyper tentant d'aller ouvrir la boîte, sortir tous les pantalons, tu vois, et puis pas forcément les remettre, enlever du cintre tous les habits. Donc au début, ça peut être un peu crispant, mais il faut dire qu'on capitalise sur le long terme. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils acquièrent vraiment l'autonomie de choisir leurs habits, de s'habiller tout seul, et oui, on est tranquille. Tu vois, là, Nao, il a 18 mois, lui, il est plutôt en mode, il vide les tiroirs. Après, Aiden, lui, il a 3 ans. Avant l'école, il est complètement autonome, tu vois. Il va choisir ses habits, il s'habille tout seul. Donc là, on a gagné du temps. Mais pour l'instant, voilà, avec Nao, c'est sport. Avec Aiden, c'est cool.
Oui, mais comme quoi, à 3 ans, c'est possible que ce soit bon et intégré.
Et c'est ça. Et du coup, tu gagnes du temps pour le coup après. Et puis surtout, alors, autant quand c'est ton premier enfant... Tu vois, tu peux prendre le temps de l'habiller, etc. Autant quand on a plusieurs, c'est quand même assez chouette quand ils sont autonomes, quoi. Donc, t'es contente de pas avoir habillé les 5 enfants le matin, quoi.
Nous, tu vois, c'était dans un tiroir de commode qu'elles avaient tout, tous les vêtements. Alors, quand je dis tous les vêtements, c'est en fait, en vrai, c'est un certain lot de vêtements. Donc, un certain nombre, effectivement, de pantalons, de t-shirts, de pulls, etc. Parce qu'on va dire qu'en fonction des saisons, moi, j'aimais bien mettre à disposition ce qui était adapté à la saison et de mettre plus en hauteur ou moins, même à la vue, ce qui l'était moins. Ce qui évite les conflits aussi en mode « mais oui, mais je veux le débardeur ou la petite robe d'été alors qu'on est en plein hiver ». Au moins, on la voit pas, on n'y pense plus et on la ressortira quand ce sera le bon moment.
C'est hyper important ce que tu dis, parce que justement, quand on veut développer l'autonomie des enfants, donc s'ils ont accès à leurs habits, ça veut dire qu'en plein hiver, s'ils voient un short et qu'ils adorent le short orange, ils vont vouloir mettre le short, c'est sûr. Et donc après, ça veut dire, renégociation, essayer de faire le lien entre la température à l'extérieur et l'habit, alors que c'est hyper malin de mettre à leur disposition que les habits qui sont en adéquation avec la saison, carrément.
Mais après, voilà. Moi, je les mets bien en hauteur, pour le coup, après, dans l'armoire. Enfin, là, maintenant, je le fais moins parce qu'elles ont 8 et 10 ans, mais en tout cas, je faisais comme ça aussi, puisque je me dis que si c'est pas à portée même de vue, tu vois, au-delà de la portée de main, on n'y pense pas. Et du coup, on s'évite aussi certains conflits. Et le matin, vraiment, moi, je repense... quand c'est même les matins d'école, hein, quand elles étaient toutes petites, nous, on fait partie vraiment des familles où on est toujours à la limite d'être en retard. Alors, on n'est jamais en retard, hein, mais on n'a pas 3 heures d'avance le matin. Donc, du coup, il faut être efficace et essayer d'éviter les conflits et tout ça. Et ce qu'on avait mis aussi en place pour justement les moments où on part ou les moments où on rentre à la maison, et qu'on a toujours actuellement, mais qu'on déplace au fur et à mesure des années, c'est, tu sais, des petites patères, des sortes de porte-manteaux qu'on accroche, et donc elles ont chacune le leur. On a aussi mis le lit qu'elles avaient, qui était le lit cododo de quand elles étaient bébés, on a mis dans l'entrée, et ça nous sert de banc, et au final c'est un banc qui est assez bas, et du coup elles prennent leurs petites chaussures, elles vont s'asseoir, enfin tout est pareil, que ce soit en arrivant ou en sortant de la maison, tout est à hauteur et à disposition pour que, justement, il y ait un maximum d'autonomie. Mais après, quand je dis autonomie, c'est dans le sens de l'action. Parce qu'après, elles ont parfois besoin qu'on leur rappelle que là, c'est le moment d'aller mettre le manteau ou d'aller mettre les chaussures. C'est après autonomie, vraiment dans leur action, quoi. C'est-à-dire, je mets le manteau toute seule, je mets les chaussures toute seule. Et c'est pareil, ça me fait rebondir sur les chaussures où... des fois, il y en a pour les enfants plus petits où il y a des lacets, mais il y a quand même une fermeture éclair là sur l'intérieur du pied. Et des fois, c'est plus pratique quand il n'y a pas encore trop la dextérité de faire les lacets, d'avoir ou des chaussures avec scratch. Moi, c'est juste que je trouve que des fois, avec scratch, on a une moins bonne tenue du pied si l'enfant ne scratche pas bien par lui-même et du coup, on est obligé de le refaire derrière. Mais... ou alors juste avec cette petite fermeture éclair là, au milieu. Et en général, je trouve qu'ils y arrivent plutôt bien. Ça peut être intéressant aussi pour l'autonomie des chaussures.
Ouais, merci pour toutes ces astuces pour l'habillage. C'est un point qui est important dans le quotidien de chaque famille. On peut enchaîner peut-être avec l'hygiène, voir comment on développe l'autonomie de nos enfants sur cet aspect-là. Alors, par exemple, dans tout ce qui est, si je pense au matin, brossage de dents, le fait qu'ils aient accès aussi à leur brosse à dents, leur dentifrice, le lavabo. Donc, parfois, il y a des petits meubles qui existent, qui sont vraiment aménagés pour, donc à hauteur d'enfant, où on a un petit coin d'eau et puis tout le matériel nécessaire pour la toilette. Et puis, si on a peut-être pas l'espace pour mettre un meuble comme ça, on peut tout simplement rajouter un marchepied pour donner accès au lavabo à l'enfant. Ou alors, il y a les petites tours d'observation aussi qui permettent de gagner un peu en hauteur et qui rendent accessible ce qui ne l'est pas forcément. Ça, en termes d'aménagement de l'espace, ça peut être aidant pour l'enfant. Est-ce que tu as d'autres astuces? Ouais.
Non, nous, on a toujours utilisé le tabouret. Tabouret ou, comme tu disais, un peu tour d'observation qui servait à la fois dans la cuisine, à la fois dans la salle de bain. Surtout pour les enfants un peu plus petits, parce que nous, c'est vrai que nos meubles de salle de bain ont toujours été assez hauts. Après, on n'a jamais eu l'espace suffisant pour dire de mettre les petits meubles aménagés, mais ça, à chaque fois que je le voyais, même sur des blogs ou sur Instagram, ouais, je trouvais ça trop bien et j'aurais aimé le faire, mais on n'avait pas l'espace nécessaire pour le mettre en place. Mais le coup du tabouret, ça marche bien, parce qu'au final, après, on peut faire une petite boîte ou un petit panier avec tout le nécessaire de l'enfant, comme tu disais, la brosse à dents, le dentifrice à porter. Et après, ce qu'on peut des fois mettre à part, c'est tout ce qui va être brosse à cheveux et un petit miroir. Nous, c'est pareil, c'est dans un placard. Et sur une étagère qui est à leur portée, elles ont tout ça. Et c'est vrai que, parce que nous, notre miroir à nous, dans la salle de bain, il est très haut. Et au final, d'avoir ce petit miroir portatif, là, les tout petits, là, d'un côté, tu te vois normal et de l'autre côté, tu te vois en x10 de plus près, ça marchait bien pour qu'elles puissent se brosser les cheveux quand elles y arrivaient, quand ça faisait pas trop mal.
Bien.
Du coup, si on passe côté repas, côté alimentation, et tout à l'heure, tu as commencé à en parler quand on était dans l'introduction. Est-ce que tu veux redétailler un petit peu ce que tu nous as expliqué brièvement au début par rapport au repas ?
Oui, on parlait du fait que l'enfant, il est capable d'attraper des petits, par exemple, une poire qui est bien mûre, il peut la saisir, il peut la mâchouiller, la susauter au début, là, quand on commence la diversification. On a souvent en tête de faire des purées et des compotes, mais voilà, il a ces capacités-là, donc on appelle des fois ça la diversification menée par l'enfant. Donc ça fait une piste intéressante à suivre pour rendre autonomes nos enfants lors de leur premier repas. Et c'est pas parce qu'il mange avec les doigts les premiers mois de sa vie qu'il sera incapable de se servir de couvert ensuite. Une espèce de conformisme social. Et puis il y a le mimétisme. En fait, s'il nous voit nous-mêmes manger avec des couverts, alors il y a un moment où lui aussi il va vouloir expérimenter d'utiliser une petite cuillère, un couteau, une fourchette. Et donc faut pas s'inquiéter. Des fois on me dit ah oui, mais du coup s'il mange avec ses doigts, on lui apprend pas à manger avec des couverts et il va jamais y arriver. Ben voilà, rassurez-vous, le mimétisme c'est quand même un sacré moteur d'apprentissage pour plein de situations. Là on parle du repas, mais pour beaucoup d'autres. Et puis après, en termes de matériel, alors ce que j'utilisais avec mes enfants quand ils étaient petits, c'était des petits sets de table sur lesquels il y avait les dessins de l'assiette, du couteau, de la fourchette, et ça les avait vachement aidés pour apprendre à mettre la table. Pour apprendre à mettre la table en autonomie, savoir où placer l'assiette, etc. On l'utilise un peu moins aujourd'hui avec les plus petits, mais parce qu'en fait, ils apprennent en regardant les grands faire. Maintenant, tu vois, Aiden, qui a 3 ans, si on lui demande de mettre la table, il veut mettre la table avec ses frères et sœurs, et il regarde comment ils font, et du coup, il n'a plus forcément besoin de modèle. Mais voilà, parce qu'il y a des frères et sœurs, etc. Mais ça fait un support intéressant, je trouve, pour eux, et puis ils sont hyper fiers de mettre l'assiette sur l'emplacement de l'assiette et les couverts sur l'emplacement des couverts, ils adorent.
Et c'est trop beau là ce que tu dis par rapport à la fratrie, parce que je me disais en t'écoutant, en fait, un des meilleurs moteurs à l'autonomie, c'est la fratrie. En fait, quand ils voient les grands frères, grandes sœurs faire, ils ont tous envie de faire comme eux. Vraiment, il y a un rapport, enfin, je ne sais pas ce qui se passe avec les enfants entre eux comme ça, il y a une forme un peu d'admiration, de moi aussi je veux faire comme lui, comme elle, et du coup effectivement après tous ces supports qu'on pourrait avoir ou mettre en place pour le premier, voire peut-être pour le deuxième, après il y en a beaucoup moins besoin parce qu'effectivement ils veulent faire comme leurs frères, comme leurs sœurs, et ça les booste aussi à devenir plus autonomes. Et d'ailleurs des fois, je sais que je me faisais la réflexion pour ma deuxième fille, où je me disais mais en fait, ça, elle le fait plus tôt que sa sœur ne le faisait, etc. Mais c'est parce qu'en fait, sa motivation première, c'est de faire comme sa sœur. Et nous, pour les repas aussi, moi, je sais que ce que j'ai toujours fait, c'est d'utiliser, par exemple, des vrais couverts. Alors, même s'ils sont adaptés à la taille, bien sûr, de l'enfant. Mais que ce soit un verre, par exemple, j'ai toujours mis un verre en verre, parce que quand tu mets un verre en plastique et que tu le remplis d'eau, bah comme c'est plus, malgré tout, plus léger, le verre en plastique, quand il ne reste pas énormément d'eau dedans, tu mets un petit coup et il se renverse. Et du coup, je trouve que l'enfant va plus vite, entre guillemets, le renverser, alors qu'un verre en verre, même s'il est quasiment vide, avant d'arriver à le renverser, il faut quand même mettre un sacré coup de main ou de bras ou de coude dedans. Et je trouve ça plus gratifiant, même pour les enfants, de voir que ben voilà, les verres sont moins souvent renversés, etc. Mais oui, en adaptant un petit peu aussi, ben après, les couverts, les couteaux, fourchettes, cuillères. Des fois, on n'est pas forcément obligé de passer par l'étape plastique, même si je trouve que c'est ce qu'on trouve beaucoup dans les magasins de puériculture. Nous, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'en fait, on a un tiroir dans la cuisine où ben justement les assiettes, elles sont en bas, enfin donc vraiment tout en bas dans le tiroir. Et en fait, des fois, je disposais par exemple quelques verres, enfin voilà, quelques couverts comme ça à hauteur d'enfant, même si après la plupart des autres couverts sont en hauteur, mais pour que justement, ben, si elles avaient envie elles de mettre leur assiette, enfin bref, leurs affaires à elles, elles pouvaient le faire et sans l'aide de personne. Et du coup, elles étaient trop fières, comme tu disais, trop contentes aussi. Après, ce qu'on faisait aussi pendant une période, mais là, quand elles étaient encore plus petites, c'est qu'en fait, le petit bureau qu'on avait pour elles, donc avec la chaise, on le mettait dans la salle à manger. Et ça servait aussi de table, parce que quand ils sont vraiment petits, là, qu'ils ont 2-3 ans, bah, des fois, c'est un peu compliqué de venir poser l'assiette, etc., sur la table où les parents mangent, parce que bah, c'est souvent bien haut. Et d'avoir, en fait, tout à hauteur d'enfant, ça peut aider aussi, justement, à favoriser cette autonomie-là. Donc ça, c'est chouette d'avoir les petites tables, les petites chaises, bah, un peu comme il y a, en fait, dans les crèches ou chez les assistantes maternelles, etc. Tout est un peu à hauteur d'enfant. Et du coup, ça aussi, ça aide beaucoup. Et après, pour les temps de préparation des repas, on avait aussi la tour d'observation dont on parlait tout à l'heure pour la salle de bain, que moi, par exemple, mon mari avait fabriqué à partir, je crois, d'un tabouret, je crois, de chez Ikea, si je ne me trompe pas. Bah, après, lui, il avait rajouté des barres en bois pour venir sécuriser tout le tour. Et ça aussi, c'était chouette parce que c'est un moment où quand on cuisine, on est en hauteur, nos plans de travail ils sont en hauteur et les enfants, ils ne voient pas forcément ce qui se passe. Et du coup, comme on a moins notre attention dirigée vers eux, des fois, ça peut avoir tendance, ils peuvent avoir tendance un peu à s'agacer parce qu'ils ne voient pas, que nous, on n'est pas avec eux, etc. Et dès qu'ils arrivent sur cette tour d'observation, hop, au final, je suis à côté de toi, papa, je suis à côté de toi, maman, et je vois ce qui se passe, et peut-être que je peux participer aussi un petit peu en mettant une cuillère de je sais pas quoi dans le saladier, etc. Et au final, tout le monde s'y retrouve, et je trouve ça chouette aussi, ces tours-là.
Oui, ce que tu dis, c'est important aussi, parce que c'est intéressant de développer l'autonomie des enfants, parce que ça va être plus pratique pour tout le monde dans le quotidien. Mais aussi et surtout, ça vient développer la confiance qu'ils peuvent avoir en eux, leurs compétences. Donc, c'est vraiment sur ces deux plans que c'est hyper intéressant. Ça fait vraiment partie, avec l'attachement, le développement du pouvoir personnel, ce sont vraiment les deux piliers du développement dans l'enfant. Donc.
Après, par rapport à tout ce qui est activité, parce que je trouve ça intéressant aussi quand les enfants, ils ont envie de jouer et qu'ils puissent avoir des choses... Donc, des activités qu'ils vont pouvoir faire en toute autonomie sans forcément attendre papa ou maman. Alors, je pense par exemple à tout ce qui va être peinture. Ben, ça, clairement, je pense que c'est les activités qu'on ne va pas laisser à portée d'enfant si on ne veut pas se retrouver avec de la peinture sur les murs. Mais on peut, par exemple, l'adapter en faisant, je ne sais plus le nom, c'est de la peinture non salissante où on met ça dans une espèce de pochette à congélation, là, qu'on ferme, et au final, il y a de la peinture à l'intérieur, et notre enfant, après, il peut patouiller par-dessus, et lui, ça lui fait quand même son œuvre d'art, et il est content, et il est en autonomie, et nous, on est sûr qu'il n'y en aura pas partout derrière. Est-ce que toi, il y a des petites astuces que tu avais comme ça pour que tes enfants, justement, ils puissent jouer, même si toi, je ne sais pas, tu avais de la cuisine, du boulot à faire à côté?
Alors nous, on a un petit meuble à roulettes avec différents étages sur lequel il y a tout le matériel. Alors, on a quand même de la peinture, mais on a mis de la peinture en pastille, tu sais. Du coup, avec de l'eau, tu trempes ton pinceau dans l'eau et après... Donc, comme ça vient remplir leur besoin de faire de la peinture, mais sans que ce soit trop salissant, parce que ça fait de l'aquarelle, en fait. Après, tu vois, le fait de laisser à leur portée du matériel créatif, par exemple, pour qu'ils puissent l'utiliser en autonomie, ça permet aussi de remédier aux situations des « je m'ennuie », tu vois, et de leur apprendre justement à trouver des activités par eux-mêmes. Parce que des fois, on peut se dire « oh non, ça va être vraiment le bazar si je laisse les crayons, les feutres, etc. » Et donc des fois, ça peut un peu refroidir sur le fait de laisser de l'autonomie à l'enfant sur ces sujets-là. Mais je pense qu'encore une fois, il faut se dire qu'on capitalise sur le long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est possible que lorsqu'on laisse en autonomie des crayons, etc., qu'il en mette un peu partout au début. Mais petit à petit, il va apprendre à être plus précis dans ses gestes, etc. Mais surtout, on lui aura appris qu'on a confiance en lui et que lui aussi, il peut par lui-même, tu vois, s'occuper sans forcément nous solliciter. Donc, c'est quand même chouette. Après, quand ils sont plus grands, de leur dire, ben, c'est OK, tu vois, tu peux faire... un dessin, un coloriage, tu sais où est le matériel, vas-y. Tu vois, quand ils sont plus grands, ensuite, ils seront capables d'y aller d'eux-mêmes sans nous solliciter et on aura gagné du temps, quoi.
Et ce que je trouve intéressant aussi dans le fait de laisser plusieurs activités à disposition et plusieurs activités au final différentes, c'est-à-dire peut-être des activités créatives, peut-être des activités qui vont amener l'enfant plus à bouger, bref, qui vont développer diverses compétences en fait chez lui, c'est qu'au final, même un temps où on est en train de cuisiner, où on va être moins disponible peut-être pour notre enfant, d'avoir ces petits meubles, par exemple, casier, je pense à ceux-là, parce que nous, c'est ceux qu'on a là d'une marque suédoise bien connue. Au final, l'enfant, il les voit, c'est bien rangé, bien disposé sur, je sais pas, des plateaux ou une activité par casier, etc. C'est pas la peine qu'il y en ait 50 000, mais à partir du moment où on les a bien ciblés en fonction de aussi l'intérêt de notre enfant, je sais pas si notre enfant, il est à fond, n'importe quoi, dans les voitures, dans les couleurs, dans les animaux, et que du coup, on va pouvoir mettre peut-être des figurines. Si c'est pour les animaux, on va mettre des figurines d'animaux, puis à côté, on va mettre un puzzle avec une girafe, et puis encore à côté, on va mettre peut-être un coloriage avec des animaux dessus, et puis encore à côté, les petits poinçons. Au final, on va permettre à notre enfant de pouvoir explorer par lui-même aussi, et de s'occuper aussi en autonomie pendant que nous on est peut-être voilà encore une fois je sais pas en train de préparer le repas. Je pense à ça parce que le soir c'est vraiment le truc en tout cas chez nous qui prend du temps, mais ça peut être des petites activités qu'il va pouvoir déplacer, faire un petit peu partout dans la maison aussi pour être à côté de nous, puisque souvent il y en a qui aiment pas trop être seuls dans une pièce, mais ils aiment bien être dans la même pièce que papa ou que maman. Et du coup ça peut être intéressant. Et après je pense aussi des fois à des petits chariots d'activités sur lesquels on va mettre je sais pas un tas de feuilles blanches et puis un pot avec des crayons dessus et puis un pot avec des ciseaux bien évidemment adaptés à la taille de l'enfant, etc., etc. Et hop, il va pouvoir en faire plein de choses. On peut faire des pliages, on peut faire du découpage, on va pouvoir faire du coloriage. Et ça c'est un peu je trouve les plateaux d'activité qui marchent à tous les coups chez les enfants et qui vont pouvoir faire malgré tout tout seul quoi, en toute autonomie, et puis essayer de leur apprendre aussi là on retrouve un peu les principes de la pédagogie Montessori, mais que chaque chose a sa place et que du coup on l'a pris à tel endroit et on essaye d'apprendre qu'il faut le ranger aussi à tel endroit, même si ça c'est pareil, ça prend un petit peu de temps, mais ça peut être intéressant aussi de commencer à apporter toutes ces notions-là d'ordre, de rangement. Et je trouve que ça va bien aussi avec l'autonomie.
Ça, justement, pour favoriser l'autonomie pour le rangement, le fait de mettre des petites étiquettes avec les photos de ce qui doit se ranger à cet endroit-là, la peinture avec une photo de la peinture, etc., ça aide vachement pour les enfants. Et puis, des fois, quand on leur dit « range », c'est tellement énorme, en fait, juste range. Alors que si on leur dit, tu vois, la peinture, on va essayer de retrouver la photo de la peinture et ça ira à cet emplacement-là, hop, de suite, ça devient plus un jeu pour l'enfant et donc c'est moins compliqué de les faire ranger et organiser à nouveau l'espace.
Et ça me rappelle, tu vois, quand tu dis ça, que nous, on avait des espèces de... Enfin, une petite étagère avec plein de petits compartiments. Et les compartiments, en fait, même s'ils étaient de couleur un peu blanche, mais ils étaient opaques, donc on ne voyait pas ce qu'il y avait dedans. Et c'est pareil, j'avais fait ce que tu disais, des petites étiquettes. J'avais pris en photo les pinceaux, les crayons, etc. Les morceaux de bois, parce qu'il y avait des morceaux de bois. Enfin, j'avais fait plein de photos et je les avais imprimées en petit format et je les avais scotchées avec ce dont on se sert là pour protéger les livres et tout, pour que ce soit un peu plastifié et que ça parte pas au premier petit accrochage qu'on ferait dessus. Et du coup, comme on voyait pas à travers, effectivement, il y avait ces petites étiquettes là dont tu parles et qui permettaient de re-ranger à sa place. C'était chouette. Et après, ça me permet de rebondir aussi sur le dernier point dont on voulait parler aujourd'hui, c'était l'organisation. L'organisation, j'ai envie de dire, de façon générale ou plus de la journée, donc soit du matin, soit du soir pour les enfants. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire justement des petites affiches de routine Donc ça, on en trouve très facilement un petit peu partout, ou on peut les créer soi-même aussi, c'est vraiment pas compliqué à faire. Et comme ça, ça coûte pas d'argent. Mais ça permet vraiment de permettre à l'enfant de savoir aussi où est-ce qu'il en est de sa journée, et que, ben, je sais pas, après le lavage de dents, ben, au final, il y a le moment où on va s'habiller, puis le moment où, je sais pas, on va mettre le manteau, et puis ensuite, on va partir à l'école, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà utilisé avec les enfants, ou en routine du matin, du soir, ou même des semainiers? Enfin, il y a plein de petites affiches différentes qu'on peut faire.
Alors, j'ai jamais utilisé ces routines avec mes enfants. Par contre, je les ai utilisées avec mes élèves, tu vois, pour qu'ils arrivent à se repérer dans la journée. Donc, ça, oui. Mais tu vois, avec les enfants, non. On n'a pas fait pour l'organisation. Par contre, de suivre un petit protocole, par exemple, une recette, ça, oui, on l'a fait. Tu vois, de décomposer chaque étape, on sort les ustensiles, on sort les ingrédients, on pèse, etc. Ça, oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont hyper autonomes, tu vois, pour faire les recettes. Ils peuvent prendre un petit livre de recettes pour enfants et faire la recette de A à Z. Mais après, pour les rituels, même, tu vois, pour le coucher ou quoi, c'était plus verbal. Quand on va se coucher, on se brosse les dents, on lit l'histoire, on raconte la journée, ce qu'on a fait, et puis on s'endort, quoi. Mais on a déjà besoin de le faire sous format plus visuel. Mais après, je pense que ça dépend aussi de la sensibilité de chaque enfant. Tu vois, peut-être qu'il y en a, le fait juste de l'entendre, c'est OK pour eux. D'autres qui ont besoin de le voir, d'autres qui ont besoin peut-être de déplacer et de toucher. Tu vois, donc là, c'est important de voir un petit peu la sensibilité de chacun, quoi.
Nous, on avait fait un semainier. Donc vraiment, alors, ce n'était pas les détails de la journée, mais c'était vraiment chaque jour de la semaine. Et c'était vraiment pour visualiser entre les temps où il y avait école, les temps où on restait à la maison. Et moi, je sais que ma fille avait vraiment beaucoup, beaucoup besoin de ça. Et donc, effectivement, elle déplaçait tous les jours sa petite photo. Et du coup, elle savait aussi le lendemain, après le dodo, est-ce que c'est un jour où on reste à la maison ou est-ce que c'est un jour où on reste à l'école? Et tu vois, donc là, tout à l'heure, tu parlais aussi des affiches pour la cuisine. Qu'on peut faire, et ça, je trouve ça trop bien, j'en avais déjà vu aussi. Alors après, moi, c'est vrai que je cuisine pas beaucoup avec mes filles, c'est surtout mon mari, donc moi, pour le coup, j'en ai pas utilisé, mais une fiche que j'ai fait, enfin même deux fiches que j'ai fait, c'est par exemple pour faire les valises quand on part en vacances. J'avais fait une affiche visuelle où bah, j'avais mis un petit pictogramme d'un t-shirt et le nombre de t-shirts que je voulais, le petit pictogramme du pyjama, des pantalons, culottes, chaussettes, etc. De tout ce qu'il fallait penser à mettre dans la valise. Et ça, je sais que c'est quelque chose dont elles se sont toujours servies et qu'elles aiment beaucoup. Et moi, j'avoue que ça me fait gagner un peu de temps aussi. Ça me demande toujours de revérifier la valise derrière, forcément, et surtout là, avec des enfants petits. Mais je sais que voilà, ça leur fait plaisir, ça aussi, de se dire « je fais ma valise, je l'organise comme je veux à l'intérieur ». Du coup, ils savent de quel côté, est-ce qu'ils ont mis quelles affaires, etc. Et après, j'avais fait aussi une affiche pour le matin, avant de partir à l'école, que j'ai mis à côté de la porte d'entrée, pareil, avec des pictogrammes, pour penser à « est-ce que t'as bien pris ta gourde ? Est-ce que... je sais plus, t'as bien pris ton chouchou, est-ce que, enfin, je sais plus ce que j'avais mis dedans, parce que là maintenant elles sont plus grandes, donc c'est plus la même affiche, mais pour essayer de penser à tout, est-ce que t'as pensé à, oui, parce que une période elles lisaient des livres aussi, qu'elles empruntaient à l'école, qu'elles avaient le droit de ramener à la maison, mais au bout d'un moment faut le ramener, donc est-ce que t'as pensé à ramener ton livre, etc. Et du coup c'est pareil, ça permet de checker et de pas partir et d'arriver dans la voiture en disant ah mince, on a oublié ça, et d'être déçu. Et du coup, on commence la journée où on se sent bien, on se sent fier, on se sent compétent, on a pensé à tout. Voilà, tout est en ordre, tout est carré. Et je trouve qu'on est bien disposé pour le coup, pour affronter la journée qui arrive. Parce qu'après, on ne sait pas trop ce qui va se passer, comment ça va se dérouler. Mais déjà, on part du bon pied et on part sur une note positive. Bon, après, ça ne veut pas dire que c'est rose tous les jours, hein, c'est pas ça. Mais disons que ça aide. Voilà, moi, j'aime bien... toutes ces petites affiches et ces petites routines visuelles. Ouais.
Oui, c'est ça. Et puis en écoutant, on peut se dire, oh là là, c'est beaucoup de travail, il faut faire les affiches, etc. Donc effectivement, quand tu mets tout ça en place, y a du travail derrière, ça demande du temps. Mais vraiment, c'est du temps gagné pour plus tard. Là, je vois mon fils aîné qui est en cinquième. Le fait d'avoir dépensé ce temps-là quand il était petit, d'avoir rendu cette autonomie possible, il n'a pas besoin qu'on lui dise de préparer son cartable. Il regarde sur son emploi du temps, il fait son sac, il regarde par rapport au cours qu'il a. Il sait quand est-ce qu'il doit aller prendre sa douche, préparer ses habits pour le lendemain. Finalement, c'est devenu des petites habitudes qui se sont ancrées parce qu'il a expérimenté. Donc oui, les premières années de sa vie, on a passé du temps à faire tout ça, on a répété, on a expérimenté, il y a des trucs qui n'ont pas marché. Mais c'est vrai que quand ils sont grands, après, on est content, tu vois, de voir que nos enfants, ils sont autonomes, quoi.
C'est ça, c'est qu'au final, on voit les bénéfices, mais un peu, j'ai envie de dire, longtemps après, quand on est dans la période des 2 ans, par exemple, il faut se projeter pour plus loin. Mais comme tu dis depuis tout à l'heure, au final, c'est te dire, OK, là, on y va, on fonce, oui, on fait ses fiches et ça peut prendre un petit peu de temps, le temps de faire des fiches. Mais au final, c'est pour gagner du temps, gagner de l'énergie, pas s'énerver, enfin en tout cas moins s'énerver, etc., etc. Et gagner aussi en qualité de vie. Et les enfants, après, ça roule quoi. Ils savent ce qu'ils ont à faire et c'est ordonné aussi dans leur tête. Et je me dis, même pour eux, c'est sûrement plus agréable au final.
Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il faut faire des réajustements. Et puis voilà, avec le développement de l'enfant, même ado, il y a d'autres choses qui se jouent et il y a d'autres apprentissages à mener. Mais au moins, déjà, ça te fait des bases solides pour l'autonomie jusqu'à tard, quoi.
Mélo, est-ce que tu veux nous partager des petites choses pour l'autonomie, justement, des élèves? Tout à l'heure, par exemple, tu parlais des routines visuel que toi, tu n'avais pas forcément mis en place avec les enfants, mais que tu avais mis en place avec les élèves. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie de nous partager, comme tu es enseignante aussi, et qui pourraient être utiles dans une classe et du coup avec un groupe d'enfants?
J'ai une réflexion qui me vient, là, c'est marrant, parce que des fois, j'ai des parents, donc moi, j'ai beaucoup enseigné en maternelle, et des parents qui me disent, je ne comprends pas, parce que vous me dites qu'il met ses chaussures à l'école, mais à la maison, pas du tout, c'est moi qui dois lui mettre les chaussures, c'est moi qui dois lui mettre la veste, c'est moi qui l'habille, etc. Mais du coup, j'ai envie de rassurer quand même les parents, c'est qu'à l'école, il y a un effet de groupe aussi, puis encore cet effet de mimétisme, on a envie de faire comme les autres. Et donc, surtout quand il y a des classes multiniveaux, où on a petits, moyens, grands, où les grands, ils sont déjà hyper dégourdis, ils mettent leurs chaussures, ils ont les chaussures, ils mettent leur veste tout seul. Les petits, ils apprennent aussi en regardant. Donc, l'effet de groupe, il est hyper aidant, je trouve, pour le développement de l'autonomie comme ça des enfants. Donc, il y a des choses qu'on met en place à la maison, mais qu'on n'a pas forcément besoin de mettre en place à l'école de par l'autonomie des plus grands, en fait, sur lesquels s'appuient les plus jeunes enfants. Après, ce dont ont besoin vraiment les enfants... ce dont ont besoin les enfants à l'école, c'est d'arriver à se repérer dans le temps. Donc là, par contre, on va vraiment mettre les différentes étapes de la journée, de dire, là, on va faire un regroupement, on va chanter des chansons, après, on va faire des ateliers en autonomie, après, on va chanter une comptine, après, on va aller dans la cour de récré. Ça, c'est important pour sécuriser les enfants et aussi pour qu'au fur et à mesure de l'année, ils intègrent l'emploi du temps et donc ils soient autonomes pour ça. Et on va gagner du temps sur l'installation, la mise en place, le passage aux différentes activités. Après, dans les écoles, quand même, tout est plus ou moins conçu pour développer leur autonomie de par le mobilier qui va être adapté à leur taille, les toilettes, les lavabos qui sont à leur hauteur aussi pour qu'ils puissent se laver les mains tout seuls et tout. Donc, il y a quand même des progrès qui sont faits de ce côté-là. Mais il y a vraiment cet effet de groupe qui est assez rigolo. Et puis aussi, ce n'est pas les mêmes enjeux affectifs. Quand il y a un enfant qui nous demande, notre propre enfant qui nous demande de mettre les chaussures, ce n'est pas forcément qu'il a besoin qu'on lui mette les chaussures, c'est qu'il a besoin qu'on prenne un petit temps avec lui, en fait. Mmh. Et donc, plutôt que de lui mettre les chaussures en pensant que c'est ça son besoin, on peut nourrir son besoin de lien différemment. En disant, j'ai super envie de voir comment tu mets tes chaussures. J'ai vu que tu as réussi à mettre les chaussures dans le bon sens, super. Et elles sont quelle couleur? Et montre-moi comment tu remontes la fermeture éclair. Waouh! Et là, on est dans le lien, dans l'interaction. Et c'est ce besoin-là qui est nourri, en fait, et pas juste le fait de mettre une chaussure.
Mmh. Oui, au final, c'est le besoin directement.
Exactement.
Le vrai besoin.
C'est ça, tout à fait, c'est ça qui est entendu.
Bon, ben super, j'ai l'impression qu'on a fait quand même pas mal le tour de plein de choses qu'on peut essayer de mettre en place, que ce soit à la maison ou effectivement après, comme tu disais, à l'école avec tous les avantages de l'effet de groupe, mais quoi qu'il en soit, pour essayer de favoriser au maximum l'autonomie des enfants. Moi, je vous propose, bah, c'est que si jamais vous avez d'autres idées, bah, c'est de pouvoir les partager en commentaire de l'épisode du podcast. Et surtout, bah, si cet épisode vous a plu et que vous avez envie qu'on fasse aussi un autre épisode, mais toujours sur l'autonomie, mais à ce moment-là sur les enfants de plus de 6 ans, donc 6-10 ans, parce qu'il y a d'autres choses qui se jouent. Ça peut être sur les tâches aussi ménagères, à la maison, l'organisation, le repas, les lessives, etc. Il y a plein d'autres choses intéressantes aussi dont on peut parler, c'est de nous le dire aussi, soit par message directement sur les différents réseaux, ou soit tout simplement en le notant sous l'épisode, et comme ça, nous, on vous préparera un épisode 2 sur l'autonomie des enfants. Et voilà.
Super, merci Nadège.
Merci Mélo.